votre mère au micro.
Je reçois aujourd'hui Sandra Creuset. Vous avez été élue maire du Coteau il y a tout juste un an. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment s'est déroulé ce début de mandat ?
Effectivement, le 15 mars 2020, j'ai eu la fierté et tout l'honneur d'être élue maire de la ville du Coteau. Alors écoutez, comment s'est passée cette première année de mandat ? Alors pour moi, pas une année pleine encore, puisque j'ai été investie dans mes fonctions le 25 mai 2020. Et voilà, donc je peux dire qu'effectivement, je n'ai pas tout à fait une année de mandature. Mais ce que je peux en tout cas vous dire là au micro, c'est que depuis que je suis installée dans mes fonctions, on ne s'ennuie pas au Coteau. Il y a du travail. L'engagement que j'avais pris avec toute mon équipe, le Coteau en action tous ensemble, c'est de redynamiser la ville, de l'embellir et d'être au travail, d'être de réels élus de terrain. Et vous voyez, la population, effectivement, nous sollicite beaucoup et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Nous sommes une ville en action.
Et une de ces actions très controversées au Coteau, c'est le démantèlement de vos deux piscines qui vont disparaître au profit d'un centre aqualudique que certains contestent. Alors, je voudrais votre avis sur la démocratie. Pourquoi ne pas engager sur cette question un référendum, puisque, vous le savez, des citoyens ont souvent l'impression de ne pas être entendus par leurs élites, leurs élus. Alors, la démocratie.
Alors, Philippe, sur le principe de la démocratie, croyez-en bien mes propos. S'il y en a bien une qui est convaincue que les gens doivent s'exprimer, qu'il faut leur donner la parole, c'est bien moi. Très rapidement, lors de mon investiture et dans ma campagne électorale, j'avais exprimé le fait de vouloir justement faire participer la population aux décisions que prenaient les élus. Par contre, il faut bien différencier les choses. La population, on peut la consulter. Effectivement, on peut l'associer à des choses. Mais en aucun cas, elle ne peut décider à la place d'un élu. Puisque vous parlez de la démocratie, le pouvoir politique, c'est l'élu qui l'incarne. Et ça, c'est le propre du suffrage universel et de la République dans laquelle nous sommes. Vis-à-vis du dossier des piscines, j'avais moi-même exprimé, mais il y a déjà un petit moment, le fait que puisqu'il y avait tant de désaccords sur ce sujet-là, pourquoi ne pas demander l'avis à la population ? Néanmoins, il s'avère que les choses étaient actées. C'est-à-dire que sur ce sujet-là dont vous me parlez très précisément, le dossier des piscines, en fait, je crois qu'à un moment donné, il faut juste dire les choses, avoir l'honnêteté de l'assumer et de le dire. Les choses étaient actées par l'intercommunalité. Les choses, vis-à-vis de ce dossier des piscines, il y avait la volonté des élus qui avait été affirmée et votée. Comme quoi il y aurait un centre aqualudique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, demander à la démocratie de remettre, si vous parlez de la démocratie, donc de l'essence même du peuple, de remettre sur la table un sujet qui était acté par la chambre qui en délibère et qui a été élue pour ça. C'est le conseil d'agglomération, le conseil communautaire. Là, à un moment donné, c'est prendre en otage les gens. Puisque ça a été décidé en 2015 de voir ce centre aqualudique, il n'y a plus de débat.
Vous voulez dire que c'était dans un programme, mais voilà. Est-ce que les gens ont voté pour ce programme-là ?
En ayant élu leur maire en 2015, là, il faut refaire une sorte de reset. Il faut revenir en 2015 en ce sujet-là. Le centre aqualudique a été voté. Le centre aqualudique a été, vis-à-vis de la chambre de l'intercommunalité, la volonté des élus de vouloir voir sur le Rouennais une seule piscine, enfin un centre aqualudique et plus de piscine diversifiée. C'est fait, ça. La seule chose qui a été remise en question, c'est le choix du site, mais pas l'équipement en tant que tel qui, depuis 2015, avait reçu les faveurs des élus communautaires. Et les élus, les maires ont été élus, ils ont tranché. Donc en partant, si vous me parlez de la démocratie, en ayant remporté des élections municipales, ils étaient l'intercommunalité pour faire valoir aussi le projet intercommunautaire. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2015. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger en fait le sens de tout le sujet et le collectif qui se voit aujourd'hui. Alors moi, je veux bien tout écouter, si vous voulez, je le dis souvent, je veux bien tout entendre, mais pas tout accepter. Il y a un moment donné, vendre du rêve et saupoudrer des dossiers, il y a un moment donné, il faut se dire les choses. S'il y a des élus qui sont élus, ceci parce qu'ils ont la technicité des services derrière et la volonté, à un moment donné, de vouloir porter quelque chose. Les collectifs qui se montent parfois à tout va n'ont pas l'ampleur des dossiers, la teneur des choses.
Mais ils peuvent faire changer les choses. Que pensez-vous de cette pétition qui est lancée actuellement et qui peut, si, je ne sais plus, 9%, 10% de la population vote signe cette pétition, le projet peut être amené à changer, à évoluer.
En fait, ce que je pense, moi, Philippe, c'est qu'effectivement, quand on voit les gens comme ça se soulever parfois, il faut se poser aussi les bonnes questions. Est-ce que parfois, les élus que nous sommes, et je vous dis, alors moi, je le dis vraiment avec beaucoup d'honnêteté, et finalement, j'ai la chance d'être toute nouvelle dans la partie, hein, parce que j'ai beau être conseillère régionale, je suis jeune maire de la ville du Coteau et nouvellement à l'intercommunalité. Je pense que les gens aujourd'hui, et dans l'expression de la démocratie, se sont sentis pendant bien longtemps plus écoutés. Et ont juste aujourd'hui envie de vouloir exprimer le fait qu'on reprenne peut-être parfois le temps de penser les choses. Et c'est là où l'intérêt parfois de se poser et de prendre le temps sur les dossiers et d'écouter les gens, davantage les gens, nous permet, nous, de prendre des positions. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Et vous voyez, quand je vous parlais des conseils de quartier tout à l'heure, c'est parce que c'est vraiment comme ça que j'entends mener ma vie démocratique dans ma ville au Coteau. C'est-à-dire prendre le temps, en fonction des quartiers, des projets que je souhaite voir émerger, prendre le temps avec ma population de se dire, voilà, on pose des choses, on vous explique, on rectifie peut-être le tir. Je ne ferai pas toujours tout bien à 100%. Et quelque part, j'en suis navrée. Mais parce qu'il y a un moment donné, on ne sait pas tout non plus. Et je demande l'éclairage des gens. Mais ça, c'est ma manière de vouloir le gérer.
Donc, c'est une bonne chose.
Mais je suis tout à fait d'accord. Mmh. Mais il ne faut pas tout mélanger non plus avec tous les collectifs qui se créent.
Non, mais là, des piscines de proximité sur d'autres territoires ont été conservées. Nous, on veut centraliser, faire un centre gigantesque pour toute une agglomération. Il faut entendre ces choses-là. Ça existe ailleurs. Pourquoi pas chez nous ?
Alors, dans l'ensemble du Rouennais, si vous voulez, et le président Yves Nicolin l'avait bien exprimé, qu'il y a des piscines d'été qui ont été maintenues. C'est l'exemple de la Pacaudière. C'est l'exemple de celle qui est à Saint-Juan-Chevalet, c'est l'exemple de celle qui est à Saint-Symphorien-de-Laye et c'est l'exemple de celle qui est en train de se refaire sur le territoire de Charlieu-Belmont Communauté. Maintenant, la question qui a été dans le Rouennais, plus d'anciennes piscines parce que très coûteuses, parce qu'elles ont plus de 30 ans, 40 ans, voire 50 ans d'âge pour certaines, des travaux d'investissement et de fonctionnement, le coût exorbitant. Ils ont tranché déjà il y a bien longtemps, et ça c'était avant mon arrivée, sur le fait qu'il y avait un seul et même site qui s'appellerait le centre aqualudique.
Mais vous savez que c'est un des reproches que l'on vous a fait, c'est de ne pas défendre cette piscine historique du Coteau.
Bah non, je ne sais pas si c'est un reproche qu'on m'a fait. En tout cas, je vais vous dire très clairement les choses, Philippe. S'il y en a bien une qui a dit que je me battais, que je réouvrais le dossier et que j'assumais jusqu'au bout, c'est bien moi. Parce que s'il y en a bien qui n'ont pas défendu, c'est bien celles et ceux qui ont transféré à l'époque, et ça c'est bien avant le mandat précédent, la compétence à l'intercommunalité, qui ont transféré un équipement malade et qui coûtait les yeux de la tête, je vous le dis très clairement, à l'impôt du contribuable, et celles et ceux qui étaient à l'exercice municipal avant moi par contre, qui, eux, n'ont rien défendu, ont laissé partir définitivement et n'ont même pas proposé une alternative. Moi, dans ce dossier des piscines, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a deux piscines qui sont concernées. Et bien j'ai réussi à faire voter le sursis pour celle d'hiver, d'y maintenir nos clubs nautiques, d'y maintenir les associations sportives, d'y maintenir la section du collège des Estines qui pratique la natation dedans, là où elle devait être démolie en même temps que la piscine d'été. La piscine d'été, il n'y a jamais eu de question de vouloir la réouvrir. Ça fait 5 ans qu'elle est fermée, ça va faire la 5e année. On a un cimetière nautique sous les yeux. C'est terminé, mais ça fait plus de 5 ans que c'est terminé. Moi, ce que j'ai fait, par contre, c'est proposer une alternative du site. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Pourquoi au Coteau, depuis le début, on ne s'est pas battu pour ce site-là ? Le site que moi j'ai proposé, c'était le domaine Berger.
Le domaine Berger, vous pouvez préciser pour nos auditeurs ?
Le domaine Berger, c'est vers Citroën-la-Goutte, dans les plaines sud, en fait, le quartier des plaines sud. Et moi, j'estimais que ce site-là pouvait correspondre au lieu à proposer pour l'implantation du futur centre aqualudique. Alors, les commissions ont tranché en exprimant que si on mettait le centre aqualudique là-bas, on augmentait le budget de plus de 3 millions d'euros. Donc, ce qui est conséquent pour le budget de l'intercommunalité, et qu'on décalait les travaux dans le temps, ça faisait perdre par rapport à l'ouverture du centre aqualudique futur, peut-être une année, voire deux, et qu'il fallait réviser le PLU. Donc, tout ça, ça faisait que le site que j'ai proposé n'a pas été retenu par la faveur des élus.
Et pourquoi vous l'avez proposé ?
Mais parce que moi, j'ai demandé à ce qu'il soit à l'étude. Je l'ai proposé. Mais quand je l'ai proposé, je ne suis pas au fait de savoir les études, ce qu'elles vont rendre après. Néanmoins, si ce site avait été proposé avant moi, ben ça aurait déjà pu être fait. C'est-à-dire que si mon prédécesseur l'avait proposé ce site, ça laissait le temps de réviser le PLU, ça permettait de dévier les réseaux, et dans le budget précédent de l'agglomération, on aurait pu le budgéter, et ça permettait de se mettre dans le cadre pour pouvoir commencer les choses tout de suite, comme au Marclay, les choses peuvent se faire. Et il est là le problème, et c'est ce que j'ai essayé de soulever. Mais moi, quand on nous a rendu les études, et qu'on me dit, ben voilà, votre note, c'est 12,6 sur 20 sur votre projet, elle est moins bonne que celle qu'on attribue au domaine Le Marclay à 17,9. Ben, vous êtes obligé de plier. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est que ça, cette solution, elle soit proposée bien avant le mandat précédent.
Donc, c'est fait. Aujourd'hui, c'est terminé pour les piscines au coteau.
Aujourd'hui, il n'y a que la piscine d'hiver qui a obtenu le sursis. Et là, on a décalé. Et ça, c'est plutôt une victoire parce que les clubs en sont bien, bien conscients et le collège également. Maintenant, sur les piscines d'été, la piscine d'été, il y a déjà depuis 5 ans, c'est terminé.
Le Linky, vous parliez justement de votre prédécesseur. Il avait tenté une action au tribunal administratif, Tout cela a été débouté. Comment accompagnez-vous vos concitoyens qui sont parfois, ou qui se sentent agressés lors des postes de ces compteurs? Nous avons reçu ici même des personnes qui ont témoigné dans ce sens. C'est pourquoi je vous pose cette question. Et là encore, pourquoi ne laisse-t-on pas aux habitants la liberté de choisir?
Alors là, Philippe, dans ce que vous êtes en train de soulever, je pense que ça dépasse largement aussi la compétence d'un maire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des décisions qui ont été prises bien en haut et qui dépassent le fait que moi, je puisse avoir le droit, à un moment donné, d'imposer ou de dire non sur des choses. Maintenant, la réalité est telle qu'à un moment donné, quand c'est aussi des propriétés privées, moi, je peux parfaitement comprendre que les gens n'aient pas envie de se sentir bousculés sur l'art et la manière de faire les choses. Mais ça, j'ai envie de dire que ça leur est propre. Mais le maire que je suis aujourd'hui, vous savez, depuis que j'ai pris mon mandat, j'ai pas été interpellée une seule fois par un de mes administrés sur le compteur Linky. Pas une seule fois en tant que maire aujourd'hui en place. Alors ça a été le cas peut-être de mon prédécesseur et j'en avais vu les éco-presses. Il n'empêche qu'il a fait un éco-presse, mais il n'a pas suivi le reste après. Et ça, je me souviens, par contre, la population l'avait soulevé. C'est bien beau de vouloir intenter une action, il s'est fait débouter, on n'en a juste plus écouté parler.
Un mot rapide aussi sur cette construction d'un immeuble de plus de 18 mètres en bord de Loire et surtout à côté de cette bâtisse historique que tout le monde connaît, ce patrimoine du coteau, cette maison qui date de 1825, donc à laquelle sera accolé vraisemblablement un immeuble. Comment est-ce possible de laisser faire ceci ?
Alors, comment est-ce possible? Sous mon mandat, en tout cas, les autorisations ne dépendent pas de ma signature, donc les choses sont claires. Néanmoins, c'est même un dossier qui remonte, mais je peux vous donner le nom de mon prédécesseur, parce que c'était inscrit au PLU depuis cette date-là, c'est Monsieur Fernier. Donc, autant vous dire que si je vous parle du maire Fernier, entre-temps, il y en a eu d'autres maires. Alors, imaginez. Ce dossier-là que vous soulevez, effectivement, les riverains, à l'époque, s'étaient insurgés quant à voir cet immeuble-là sur le bord de Loire arriver. Donc, il y avait eu des pétitions, il y a eu du tribunal administratif. Mon prédécesseur lui avait validé le permis de construire et les choses s'engageaient. Et aujourd'hui, ça a été mis en conformité. Donc, cet immeuble le voit le jour. Mais après des années et du débat, mais alors pour qu'in fine la justice en plus est tranchée en disant il a le droit de le faire, et le droit d'urbanisme est du côté du promoteur. Maintenant sur l'aspect esthétique, et c'est là où par contre je vous rejoins, typiquement sur l'aspect esthétique, on peut se poser des questions, là où c'est, où l'immeuble est positionné, voilà, moi je pense très très clairement, parce que le PLU maintenant, je vois les choses et c'est moi qui signe les nouveaux documents. J'aurais préféré que mon prédécesseur prenne davantage de temps pour penser les choses.
Oui, mais ça veut dire que donc il y a plus aujourd'hui, vous n'avez plus de marge de manœuvre.
Ah, mais moi non, ça, quoi. Voilà. Pas du tout, voilà. Parce que le recours.
On peut pas revenir en arrière.
Non, le recours date de l'an passé déjà. Aujourd'hui, toutes les procédures sont épuisées. Ils sont dans leurs droits. Le droit administratif leur donne raison.
Donc voilà encore une affaire qui échappe aux politiques. Autre sujet, la sécurité qui était au cœur de votre campagne, la délinquance ou du moins les incivilités, sont-elles en si grande augmentation que ça au coteau?
Alors ça dépend comment vous posez la question.
Vous avez des chiffres?
Alors on a des chiffres, mais si vous vouliez vraiment des chiffres précis, j'aurais pu vous les emmener. Et en tout cas, vous savez que j'ai dans mon équipe quelqu'un d'extrêmement compétent, qui est l'ancien commandant de la PM de la police municipale de Rouen, qui s'appelle Hervé Barge, et je pense qu'il parlerait nettement mieux sécurité que moi. Néanmoins, par rapport à ce que vous dites, il faut faire attention dans ce que vous dites quand vous parlez de délinquance. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Saint-Thé. Néanmoins, il y a du désagrément, il y a du tapage, il y a des incivilités et il y a des vols. Parti de ce principe-là, et toutes les plaintes que nous avons pu recevoir, parce que pour le coup des plaintes on en a très très régulièrement, ça a participé au fait que l'on parle sécurité au coteau, et ça a participé au fait que, et notamment sur les cambriolages, parce qu'on a eu une recrudescence en un an de cambriolages, alors peut-être que le Covid explique certaines choses, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une réalité, ça a participé au fait de la réflexion sur la vidéoprotection. Mais de là à parler de délinquance, à mon avis, il faut quand même peser ses mots.
Néanmoins, donc vous projetez d'installer des caméras de vidéoprotection, caméras de surveillance. Vous avez permis l'embauche d'un policier municipal, c'est ça ? Et bientôt deux, je crois ?
Non, d'un ASVP et d'un policier municipal.
Voilà, un ASVP, un policier municipal.
Alors là actuellement, au Coteau, avec deux policiers municipaux et un ASVP, puisqu'on a remis en place, en plus on a réactivé la zone bleue, donc tout le côté du stationnement qui incombe, les fonctions d'un policier municipal ou d'un ASVP sont réactivées. Là, pour le moment, on est bien, dans le sens où, avec le dossier de la vidéoprotection, on va mettre en place le partenariat avec la ville de Roanne, c'est-à-dire que ce sont les effectifs de la ville de Roanne, vis-à-vis de la visualisation des caméras, on va travailler avec eux sur la mutualisation et on va intégrer le CPU, leur centre de protection urbain. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un dossier qui est bien complet et qui va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions, de manière à pouvoir remettre petit à petit une politique sécurité au Coteau, de manière à être dans l'efficacité lorsqu'il faudra intervenir.
Votre maire au micro, Sandra Creuset, aujourd'hui sur RVR. Depuis un an, vous êtes aux affaires au Coteau. Quelles sont les préoccupations de la population ? Le stationnement, la propreté, très terre à terre, finalement, tout ça.
En fait, vous venez de dire quelque chose qui me fait sourire parce que vous dites que la préoccupation de la population est très terre à terre. Mais j'ai envie de vous dire qu'un maire, c'est quelqu'un de très terre à terre. C'est monsieur, madame, tout le monde et qui est au contact permanent de ses administrés. Quand on est maire, c'est parce qu'on est dans le trait de terre à terre et le quotidien de tout le monde. Et bien le stationnement, mais je vais même peut-être vous faire sourire, mais la déjection canine, le vol de courrier, parce que ça c'est quelque chose que j'ai aussi, on m'a sollicité dernièrement entre voisins, les conflits de voisinage, c'est du terre à terre, quelque part, mais c'est juste le quotidien de la vie de tout le monde.
Le stationnement, ça c'est une préoccupation, on nous en parle
permanente,
chaque fois.
Permanente. Voilà. Au Coteau.
Alors, comment réglez-vous ce problème ?
Ben là, on a réactivé la zone bleue Avenue de la Libération, cette zone bleue qui a été créée il y a déjà des années déjà, mais qui n'était plus, en action. Donc, le fait d'avoir recruté un ASVP et prochainement un futur policier municipal permet de réactiver, d'être vigilant sur cette zone bleue de manière à faire que les véhicules ne stationnent plus, mais permettent le roulement de manière à les consommer chez nos commerçants. Mmh. Les stationnements bimensuels aussi, ces quinzaines, les premiers du mois, ça c'est pareil, c'est un vrai fléau quand on a des petites rues. Mmh. Les transports en commun s'insurgent des fois les conducteurs parce qu'ils ne peuvent pas faire de créneaux. Mmh. Donc il y a tout ça en fait qui se met en place.
Mmh. C'est vraiment efficace cette zone bleue ?
Bah, en tout cas, moi, vu les retours des commerçants, sachant que j'ai créé l'Office du commerce et de l'artisanat, sont plutôt positifs. Mmh. Et au contraire, sont même contents de voir qu'il n'y a plus de véhicules qu'on appelait gênants, des véhicules tampons. Mmh. Des véhicules qui restent là et qui ne permettent pas aux consommateurs, finalement, d'aller consommer.
Vous avez engagé d'importants travaux de voirie aussi, et qui n'avaient pas été entrepris par le passé, donc sûrement nécessaires. Alors, pouvez-vous les présenter ?
On a eu un choix à faire avec mon équipe, c'est de prioriser nos dossiers. Et la voirie en fait partie de nos priorités. On est en train de mettre en place, on a choisi de faire une étude par Géoptis où ils nous ont fait un rendu. C'est une filiale de La Poste qui parcourt la ville et qui nous rend un état de notre voirie. Et dans l'état qui nous a été rendu, on a eu une note de 4,5 sur 10, ce qui explique qu'on a un réseau de voirie, très très vétuste, à la limite de la catastrophe. Mais je vous dis à la limite, avec des guillemets. Donc ça veut dire qu'il faut bouger maintenant. Maintenant, on a priorisé des rues. Là, l'avenue de la Libération se termine parce que c'était engagé déjà du budget précédent, donc il faut qu'elle se fasse. Mais on a priorisé des rues où on a petit à petit, on est en train de remettre en place de la voirie, des réseaux, des trottoirs, de la réfection de voirie. Ça participe à moderniser et à embellir une ville. Alors je sais que les travaux embêtent tout le monde. Je sais que les travaux peuvent polluer la vie du riverain. Mais une fois que c'est fait, tout le monde est content. Et que dans un budget, en tout cas le maire que je suis, entend bien revaloriser sa ville et permettre aux usagers, lorsqu'ils payent des impôts, de pouvoir en avoir un retour sur investissement.
Mmh. Tout le monde connaît les difficultés économiques en ce moment. Vous y êtes confronté aussi au Coteau avec Diva France, De Vernois par exemple. Alors quelle est dans ce secteur la marge de manœuvre du maire ?
Alors là, vous venez de citer deux sujets, mais qui fatalement n'ont rien à voir. Parce que pour le coup, dans la difficulté, Diva France a connu des difficultés avant que je sois maire. Moi, je les avais beaucoup soutenus en tant que conseillère régionale et n'en connaît plus à ce jour. Dans le sens où le repreneur qu'il y a eu dernièrement met en place un plan où là, il est même dans la réembauche. il est en train de mettre tout un plan d'actions pour réembaucher. C'est ce qu'il a fait déjà. Et avec tout un process et des projets à terme pour revaloriser l'emploi au local et le Made in France. Donc l'engagement que nous avions pris est tenu. Vis-à-vis de Devernois, c'est encore autre chose. La crise sanitaire, effectivement, est passée par là et a pu les mettre dans la difficulté. Mais le plan social qu'ils sont en train de vivre leur permettra de rebondir demain. Après, ce sont des choix budgétaires qu'ils devront faire. Maintenant, le maire que je suis n'a pas de pouvoir d'action, entre guillemets, vraiment dans le concret, de pouvoir de décision vis-à-vis d'eux. Par contre, mon job, c'est de les soutenir. C'est d'un moment donné, dans les difficultés qu'ils rencontrent, c'est de les mettre en action, en relation avec les bons interlocuteurs. Ça peut être le conseil régional pour certaines parties, parce que j'ai été, même si je suis à la fin de mon mandat de conseil régional, vis-à-vis des entreprises, on les a accompagnés budgétairement parlant, avec de l'investissement, on a mis en place des choses. Et vis-à-vis de l'intercommunalité, c'est là où il y a un rôle à jouer. Et le maire de la ville doit porter aussi ses dossiers au sein de l'intercommunalité, qui, elle, a la compétence économique. Maintenant, je n'aurais absolument pas la prétention de dire qu'en tant que maire de la ville, j'ai tout pouvoir sur une entreprise. Pas du tout. Néanmoins, être à côté, les valoriser et mettre en place ce que je suis en train de faire avec mes industriels costellois, c'est-à-dire fédérer, faire des réunions, des temps d'échange où on se rencontre et essayer de voir les problématiques, comment je peux les aider, ça c'est quelque chose que je mets en place. Et je ferai partie de ces maires, en tout cas dans la ville, ça n'a pas été le cas avec certains de mes prédécesseurs, où j'accompagnerai l'emploi et je serai aux côtés de mes chefs d'entreprise, parce que le coteau parle beaucoup économie.
La baisse des dotations de l'État incite forcément les municipalités à être moins dispendieuses. Alors, vers quel poste prévoyez-vous des économies ?
Alors, c'est très vrai ce que vous dites, Philippe, parce qu'en plus, on a eu le conseil municipal, nous, du budget la semaine passée. Et j'ai expliqué qu'en une dizaine d'années, j'avais perdu plus de 3 millions de dotations de l'État. Donc, il y a effectivement des postes sur lesquels nous sommes en train de regarder. C'est sur l'ensemble du personnel. C'est-à-dire que je n'individualise pas les postes. C'est sur une masse globale d'agents dans la mairie où je suis en train de voir comment je peux revoir à la baisse certaines choses. J'ai fait le choix de mettre en place une politique d'insertion et d'accompagnement de l'emploi avec du parcours emploi compétences. Ça me permet, moi, lorsque j'ai des recrutements, d'avoir un remboursement des charges par l'État. Et à terme, c'est une véritable politique RH que je suis en train de mettre en place en mairie du Coteau, parce que c'est vraiment un de mes gros postes de personnel. Il y a aussi un point sur lequel je joue, du moins j'insiste au niveau des dotations, c'est que moi j'ai mis en place un service Economa Achat. C'est-à-dire que le service Economa Achat me permet de négocier vis-à-vis des marchés, vis-à-vis de l'investissement ou du fonctionnement, de négocier. De pouvoir avoir une marge de manœuvre. Et voyez, depuis que je suis maire, c'est plus de 115 000 euros qu'on a économisé. C'est pas rien, ça.
En ce qui concerne la masse salariale, donc elle est réduite, ça veut dire des départs à la retraite non remplacés ?
Ça peut être ça. Ça peut être des bascules de poste, effectivement, sur certains emplois. Ça peut être, à un moment donné, aussi des choix vis-à-vis de certaines compétences que l'on a. Est-ce qu'à un moment donné, on peut tout absorber ? Il y a aussi des transferts de compétences avec Rouen Agglomération. Hein. Les intercommunalités, vous savez qu'elles prennent aussi des compétences et davantage de compétences. C'est se poser les bonnes questions vis-à-vis d'une politique que l'on a. Être capable de dire qu'on peut tout faire, c'est un mensonge. De dire, par contre, il y a un moment donné, il faut prioriser, mais il faut faire les choses bien et on peut le faire, ça, c'est la vérité. Et vis-à-vis de la politique RH, je ne peux pas m'inscrire dans la même lignée que mes prédécesseurs d'avoir autant de personnel, mais avec moins de moyens. C'est juste pas possible. Donc, effectivement, les départs en retraite, tous ne seront pas remplacés. Et valoriser une politique d'insertion et de retour à l'emploi pour certains, en partenariat avec l'État et les missions locales et le Pôle emploi, ben ça, je pense que c'est aussi une bonne alternative.
Après une année plus que difficile pour le secteur de la culture, du sport, des associations en général, quelles sont les perspectives que vous pouvez donner dans ce domaine pour cette année ?
Ben alors écoutez, déjà, je me joins très très sincèrement à la difficulté que tous ces acteurs rencontrent. Et je pense être bien placée pour pouvoir en parler, puisque je suis moi-même fille d'une intermittente du spectacle, hein, ma maman, et de mon papa prof de musique. Donc croyez-moi bien que la culture, je connais. Et s'il y a bien une chose dont je suis convaincue, c'est qu'au Coteau, on doit porter une véritable politique culturelle. C'est ce que j'ai choisi d'incarner. On a une pépite en termes d'infrastructure, nous, au niveau du Coteau, hein, c'est l'espace des marronniers. Et j'ai fait le souhait sur les années à venir, de porter une véritable politique culturelle, une saison culturelle. Il n'y en a jamais eu au Coteau. Mmh. on a des pépites artistiques dans le Rouennais, et ben qu'elles se fédèrent autour de moi de manière à nous aider à valoriser cet équipement et proposer une vraie scène culturelle à l'ensemble de la population.
Voilà, une saison comme au théâtre de Rouen, par exemple.
Exactement, comme le font nos collègues de Mably, comme le font nos collègues de Riorge, par exemple. Ben, le Coteau doit aussi s'inscrire pleinement là-dedans, parce qu'en plus, on a l'infrastructure adéquate pour cela, mais qu'on n'a jamais explorée. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a créé, et avec le travail qu'a réalisé mon adjointe à la culture, hein, Joy Talba, on a créé une association qu'ils ont appelée Costar. Cette association-là, qui est une association costelloise avec des artistes, des acteurs locaux de la culture, et ben nous crée, nous porte cela, en fait. Mmh. À la place d'engager un poste, parce que je n'en ai pas les moyens, au travers d'une subvention, on les aide à démarrer, et après, les spectacles, les choses qui seront mises en place, petit à petit, permettront à l'association de rouler, de se constituer un budget et de pouvoir promouvoir le spectacle, la culture, les concerts, une scène théâtrale.
Ça veut dire qu'il y a déjà un programme qui est élaboré, qui est à l'étude. On peut penser qu'après la crise sanitaire, peut-être à la rentrée.
Et tout cela, évidemment, vous sera bien présenté. Mmh. Exactement. Et puis, vous voyez, vis-à-vis du milieu culturel et même nos associations, hein, c'est vraiment une demande de porter la culture. Et je crois sincèrement qu'on en a besoin aussi. Et puis d'aller se divertir et puis de découvrir. De s'ouvrir les sens aussi, peut-être à d'autres univers, on en a besoin. Et avec ce qu'on a vécu depuis un an et bientôt plus, on a besoin.
Un mot sur les clubs sportifs qui ont perdu beaucoup de licenciés. Là aussi, un accompagnement particulier ?
Avec les clubs sportifs, où c'est même c'est compliqué aussi pour eux, parce que le sport, c'est aussi de l'endurance et c'est sur le quotidien. Oui, certains, à mon avis, perdront des licenciés. Alors aujourd'hui, on n'a pas trop l'état de savoir s'ils ont perdu ou pas. Ce qu'on sait, c'est que les clubs sont en sommeil depuis cette crise sanitaire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, au niveau des accompagnements, il y a aussi les fédérations qui sont là derrière. Et nous, la municipalité, ce qu'on essaye de faire déjà, c'est de pouvoir petit à petit promouvoir avec eux le sport au niveau du Coteau. On va remettre en place, il a eu existé il y a des années en arrière, mais nous on met en place le forum des associations et où le sport, une grosse partie en tout cas au niveau du Coteau, parce que j'ai une grosse communauté de sportifs. Il y a aussi un choix dans ma politique municipale qui est de revaloriser les équipements sportifs. Donc il y a quand même de réelles choses qui sont en train de se faire pour eux, pour leurs équipements et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions à terme.
Le mot de la fin, Madame le maire.
Écoutez, moi je suis ravie de pouvoir m'exprimer pour la première fois à votre antenne en qualité de première magistrate de la ville. Je reviendrai avec plaisir. Et si vous voulez qu'on débatte de plein de sujets, je me mets à votre disposition. Il n'y a pas de souci.
Merci à Sandra Creuset, maire du Coteau. Une interview à réécouter en podcast sur notre site rvrradio.fr.